Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre du guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question cruciale des fruits. C'est une question sensible, car les fruits sont une famille d'aliments plus ou moins riches en sucre, via le fructose, tandis que certains fruits ont des propriétés nutritives, pour le coup, plus proches des légumes que des fruits sucrés. De par leur hétérogénéité, on a tendance à confondre fruits et légumes et à abuser de certains fruits au détriment d'autres qui nous seraient peut-être plus bénéfiques. Par conséquent, si la maxime selon laquelle il faudrait manger 5 fruits et légumes par jour est dans un premier temps une bonne manière d'amener le grand public vers des aliments plus naturels, on se retrouve vite tenté de consommer au moins 4 fruits très sucrés chaque jour, et éventuellement un pseudo-légume, avec ce que cela peut entraîner comme conséquence sur l'organisme et sur la santé. Par ailleurs, étant donné que le fruit est un aliment de la nature, il est de facto généralement considéré comme étant bon pour la santé. Mais cette assertion est-elle justifiée? Les fruits sont-ils vraiment bons pour nous? Si on observe la santé des Américains entre 1920 et 1970, on constate qu'ils ont subi lors de cette période la pire épidémie de maladies cardiovasculaires. On se souvient également, dans le chapitre qui était dédié à la chasse au gras, que cette explosion des crises cardiaques était corrélée à une augmentation de la consommation de sucre. Et si on se penche sur le régime alimentaire des Américains au cours du XXe siècle, on remarque qu'ils furent de grands mangeurs de fruits et beaucoup moins de légumes. Il s'agissait notamment de fruits tropicaux comme les bananes, les agrumes et l'ananas, c'est-à-dire des fruits de pays où, en fait, il fait toujours beau. Donc des fruits d'été très riches en sucre, et notamment en fructose, un type de sucre que nous allons dépeindre dans ce chapitre. Il y aurait donc corrélation entre l'augmentation des maladies métaboliques en Amérique, et plus globalement en Occident, et encore plus globalement dans les pays développés, et l'augmentation de la consommation de fruits et plus globalement de produits sucrés et céréaliers. Certes, il y a évidemment d'autres facteurs qui ont forcément dû rentrer en compte, et le lien de cause à effet n'est pas établi. Mais depuis, la science a montré que les fruits, en fonction de leur forme, de leur mode de consommation, du profil de l'individu qui les consomme et de la quantité qui est consommée, ne sont pas forcément bons dans tous les cas de figure pour la santé humaine. Il se pourrait même que leur consommation au-delà d'un certain seuil, à une certaine fréquence et en fonction des fruits choisis, puisse s'avérer toxique pour l'organisme. Comme très souvent en nutrition, le diable se cache dans les détails. Et nous allons ici dédier un podcast entier du guide Blueness à l'épineuse question des fruits, afin de répondre à la question de savoir s'ils sont une bénédiction ou une malédiction pour la santé, la longévité et le maintien d'un poids de forme. Et tout cela dans le contexte d'une diète méditerranéenne, normalement riche en fruits et en légumes. Alors on le sait depuis le contenu dédié aux légumes phares de l'alimentation méditerranéenne, que certains végétaux considérés comme des légumes sur le plan culinaire sont en réalité des fruits. On les classe alors dans la rubrique des légumes-fruits, comme par exemple les tomates, les avocats, les olives ou encore les aubergines. La raison pour laquelle ces aliments sont considérés comme des fruits sur le plan botanique, c'est qu'ils contiennent en eux les graines de la plante. Cette caractéristique fait de ces aliments donc des fruits, indépendamment de leur teneur plus ou moins élevée en sucre. En fait, le fruit est l'organe comestible des plantes à fleurs. Et cet organe, par exemple l'avocat ou l'aubergine, succède à la fleur et contient là où les graines. Si on prend l'avocat, par exemple, il contient un noyau, donc une graine, et il provient d'une fleur fécondée, celle de l'avocatier. C'est donc un fruit. Certaines exceptions existent, notamment la banane, qui ne contient pas de graines, de noyaux ou de pépins à proprement parler, mais qui dispose bien d'embryons de graines en son sein, qui n'ont pas besoin d'être fécondés. Le bananier domestiqué par l'homme, par sélection génétique, un processus dont on a déjà parlé dans le podcast dédié aux céréales, donc le bananier peut s'auto-reproduire par lui-même. On parle bien du bananier qui a été domestiqué par l'homme, par sélection génétique. Alors comme cette définition des fruits est purement botanique, on aura tendance ici à préciser quand on parle de fruits globalement sucrés, comme les bananes, les fraises ou les oranges, ou de légumes-fruits, comme par exemple la tomate, l'aubergine ou la courgette, beaucoup moins riches en sucre simple, comme nous l'avions déjà expliqué en détail dans le grand contenu dédié aux légumes en diète méditerranéenne. Enfin, une catégorie un peu à part de fruits riches en lipides concerne une minorité de fruits, comme les olives ou la noix de coco par exemple, et nous avions également déjà traité ce type d'aliments dans ce guide. La question ici, c'est de savoir si les fruits sucrés, plus ou moins riches en sucre en tout cas, sont bons pour la santé, et dans quelle quantité, et de savoir ce qu'en dit la diète méditerranéenne à ce sujet. L'observation du régime dit méditerranéen sur les populations ayant brillé par leur longévité en bonne santé a permis de constater que les habitants de ces régions consommaient régulièrement des fruits et des légumes de bonne qualité, bio et cultivés dans des conditions optimales. Outre les divers légumes, ainsi que les légumes-fruits, qui constituent l'un des piliers de l'alimentation méditerranéenne, donc parmi lesquels on retrouve le poivron, la courgette, la tomate, le fenouil, etc., mais aussi les herbes comme le persil, la menthe ou le basilic, et bien sûr les aromates et les épices qui comptent parmi les meilleurs aliments protecteurs pour la santé. Nous avons donc les fruits. La question, c'est de savoir quelle quantité et quelle priorité accorder aux fruits par rapport aux légumes. Car le problème de la pyramide alimentaire méditerranéenne, telle qu'on peut la voir partout, c'est qu'elle met sur le même plan les légumes, les fruits, les céréales, l'huile d'olive, les bons oléagineux, les légumineuses et les herbes, les épices et les aromates. Et cela devant l'apport protéique qui pourrait provenir des poissons, des fruits de mer, de la viande de qualité, des œufs ou des produits laitiers. Au grand dam d'ailleurs des partisans de la diète paléo ou de la diète cétogène à tendance carnivore. Si cette pyramide alimentaire a le mérite de remettre l'accent sur des aliments sains et malheureusement boudés, oubliés, est trop peu consommé dans l'alimentation moderne, que ce soit par paresse de les cuisiner ou tout simplement par ignorance ou simple indifférence, elle a à son passif, cette pyramide alimentaire, le fait de considérer certains aliments, comme les fruits ou les céréales, comme devant être à la base de chaque repas, sans qu'on en sache plus sur la quantité et surtout sur la répartition de ces aliments. Tout cela pose plusieurs questions, parmi lesquelles: est-ce que les fruits ou les céréales doivent majoritairement être à la base des repas, ou est-ce qu'ils peuvent être interchangeables avec d'autres types d'aliments, eux aussi riches en glucides comme les légumineuses, souvent moins énergétiques, ou même avec des légumes dépourvus de glucides nets, comme les brocolis, les choux ou la salade? Et quand le régime crétois parle de céréales ou de légumineuses comme étant à la base de chaque repas, parle-t-on d'une base comme étant un prérequis qualitatif, c'est-à-dire une présence plus ou moins indispensable à chaque repas, mais possiblement en toute petite quantité si on le souhaite, ou est-ce que l'on suggère qu'ils doivent être quantitativement dominants dans l'assiette et dans l'alimentation? En fonction des réponses à ces questions, les conséquences ne seront pas exactement les mêmes sur le plan métabolique. D'aucuns défenseurs de la diète carnivore, cétogène ou même plus généralement équilibrée à la méditerranéenne soutiendront l'idée selon laquelle les fruits et les céréales, surtout les fruits et les céréales tels qu'on les a actuellement en supermarché et qui s'éloignent de plus en plus de leurs ancêtres par le traitement de l'homme, donc ces fruits et ces céréales ne devraient pas être à la base de chaque repas, selon donc la plupart des défenseurs des diètes carnivores ou cétogènes. Sinon, au moins, surtout pas en termes d'apport calorique. Par ailleurs, certains défendent l'idée d'un apport équilibré entre les trois macronutriments, et d'autres considèrent qu'il vaut mieux choisir son allié préféré en termes d'apport énergétique, donc soit via les glucides, soit via les lipides, en abaissant l'un ou l'autre par compensation. Quelle que soit la formule choisie, la pyramide alimentaire méditerranéenne ne répond pas avec précision à ces questions. Elle défend juste l'idée générale selon laquelle les légumineuses, les céréales, les fruits et les légumes, en d'autres termes à peu près tous les végétaux, doivent constituer la base de chaque repas, sans qu'on sache quelle priorité accorder à chacune de ces familles d'aliments, et en les considérant tous comme étant interchangeables, ce qui n'est pas aussi simple. Il ne s'agit pas de blâmer cette pyramide alimentaire méditerranéenne, car comme nous l'avons précisé avant, Elle a au moins le mérite de remettre des aliments globalement sains sur le devant de la scène, au détriment des snacks sucrés, salés, bourrés de mauvaises graisses ou encore des apports protéinés parfois trop importants au regard de l'activité physique des individus et qui plus est provenant de viande de mauvaise qualité. Il s'agit plutôt de préciser, selon les informations disponibles en l'état, ce que pourrait être une alimentation méditerranéenne optimale, moderne et adaptée au monde d'aujourd'hui, à travers donc une consommation adaptée de fruits. Et la question des fruits, et dans une plus grosse mesure la question des céréales, fait partie de cette problématique assez complexe. Dans les faits, les fruits consommés en diète méditerranéenne sont généralement le raisin, les figues, les pêches, les fraises, le melon, les pommes, les poires, etc. Jusqu'ici, rien de nouveau en ce qui concerne l'intérêt de consommer ce type de fruits, puisqu'ils peuvent, enfin pour ce qu'ils peuvent apporter en termes de micronutriments protecteurs. Donc les vitamines, les minéraux, les polyphénols, les antioxydants, ils apportent également des fibres et du sucre en quantité finalement modérée par rapport à un plaisir sucré qui pourrait provenir d'un aliment transformé, beaucoup plus riche en calories et d'ailleurs souvent en graisse de façon simultanée. Que cette friandise soit d'ailleurs artisanale ou industrielle. En termes de plaisir gustatif, les fruits apportent non seulement des micronutriments pour l'organisme, mais ils apportent également de l'eau, pour peu qu'ils soient consommés frais et pas secs, ce qui dilue ainsi le rapport énergétique, et ça c'est une bonne chose. Maintenant la question c'est de savoir à quelle fréquence les consommer et dans quelle quantité. Pour répondre à ces questions, on va devoir comprendre comment les fruits sont métabolisés par l'organisme. On va découvrir en quoi leur métabolisation est différente des autres aliments riches en glucides et pourquoi cela peut poser problème si on en consomme trop. En effet, les fruits renferment un type de sucre simple, ô combien différent du glucose contenu dans les céréales ou les légumineuses. Et nous allons voir que contrairement aux apparences, ce type de sucre considéré comme naturel peut vite devenir toxique à haute dose. Enfin, nous allons voir si la consommation de fruits a un impact sur la glycémie et si oui, dans quelle mesure. Nous allons également déterminer s'il existe des moments plus ou moins opportuns pour en consommer et nous dresserons la liste ultime des meilleurs fruits à consommer pour la santé et aussi en fonction du type de diète choisi, sans pour autant devoir évidemment bannir les fruits les moins recommandés puisque on ne le rappellera jamais assez dans ce guide. L'important consiste à avoir des habitudes saines de façon régulière et quotidienne, tout en s'accordant des moments en dehors des clous quand on en a envie, de temps en temps, puisque les résultats proviennent des 80 à 90% d'habitudes saines. Donc qu'est-ce qu'on va apprendre dans la partie premium consacrée aux membres Blueness? Tout d'abord, quel type de sucre est contenu dans les fruits? Quelle est la différence entre ce sucre, donc le fructose qui est contenu dans les fruits, et le glucose? Les fruits ont-ils un impact sur la glycémie, l'insuline, et est-ce qu'ils peuvent entraîner une résistance à l'insuline, et donc un problème de surpoids? Quels problèmes de santé peuvent être induits par une consommation importante de fruits? Est-ce que le fructose extrait des fruits et utilisé comme sucrant par l'industrie agroalimentaire a un impact sur la santé, et si oui, lequel? Enfin, quels fruits privilégiés en diète low carb et méditerranéenne? Quels fruits évidemment en diète cétogène? Est-ce que globalement ils sont bons pour la santé? À quelle fréquence? Dans quelle quantité? Comme d'habitude dans ce guide, nous définirons les choses clairement, non pas par simple souci de pédagogie, mais parce qu'en comprenant les choses, en comprenant le sens des mots, on apprend à manier les concepts. Pour avoir accès à l'intégralité de ce contenu premium, je vous donne rendez-vous directement dans la zone membre du site www.blueness.com. À très vite.